Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale se penche sur la situation en République centrafricaine avec Marie-Thérèse Keita-Bokoum, experte indépendante sur la situation des droits de l'homme dans ce pays. Marie-Thérèse Keita-Bokoum a récemment achevé une visite d'évaluation en RCA, actuellement en proie à une dégradation de la situation sécuritaire, notamment à Bangui, seulement quelques mois après la tenue réussie des élections présidentielles et législatives. Venue présenter son rapport au Conseil des droits de l'homme à Genève, elle a accepté de répondre aux questions d'Alpha Diallo.
Il faut reconnaître que la crise centrafricaine est une longue crise et elle a duré plusieurs dizaines d'années. Ses causes sont la frustration, la discrimination et aussi la circulation des armes illégales, le grand banditisme, la criminalité et bien sûr les actions des groupes armés. Et donc une crise de ce genre ne s'achève pas en un seul jour. Le gouvernement qui est là a été élu de manière très transparente et démocratique il y a quelques mois et le gouvernement est en train de prendre des mesures et aussi de beaucoup réfléchir à comment mettre en œuvre justement les décisions qui ont été prises dans le cadre du forum de Bangui. Un des piliers de l'action de ce gouvernement et du président Touadéra, c'est le désarmement. Mais un désarmement qui tienne compte de la réflexion sur les causes du conflit et sur quelque chose donc qu'on ne voit pas souvent et dont on ne parle pas souvent, c'est l'extrême pauvreté qui existe dans le pays. Et quand on parle de jeunes qui se sentent exclus, c'est parce qu'il y a énormément de jeunes qui ne font rien, qui ne se sentent pas inclus dans le développement du pays, qui ne participent pas justement au partage des ressources. Donc il y a bien sûr des mouvements de frustration qui peuvent venir de certaines communautés, de certains groupes comme les femmes par exemple, qui ne se sentent pas aussi suffisamment associées à la vie économique et sociale alors qu'elles représentent quand même plus de 50% de la population, mais il y a l'extrême pauvreté qui est là et qui finalement éloigne du développement et du bien-être social une grande partie de la population. Et je crois que c'est un petit peu ça qui aujourd'hui explique le regain de crise, sans compter la criminalité qui prend de l'ampleur parce que justement il y a un retard dans la mise en œuvre des décisions concernant la lutte contre l'impunité et notamment la justice.
Par rapport à cette dégradation de la situation sécuritaire, un casse-bleu sénégalais abattu apparemment par des FACAV, enlèvement de policiers à Bangui, village attaqué en province, rebelles qui ne désarment pas, groupes armés qui ne désarment pas. Lors de votre visite en Centrafrique, est-ce que quelque part vous avez eu l'impression qu'après plusieurs mois d'accalmie, que la Centrafrique peut facilement retomber dans ses vieux démons et renouer avec la violence?
Ce que j'ai senti en Centrafrique, c'est de dire sincèrement, je crois que la population a réduit l'état de grâce qu'il avait accordé peut-être au gouvernement qui est en place et donc à trop d'attentes. Et là, je crois que les espoirs étaient très élevés. Et les quelques mois qui sont passés depuis l'installation tardent à montrer justement une action concrète, bien que toutes les autorités que j'ai rencontrées m'ont affirmé qu'elles étaient en train de réfléchir dans des commissions sur la question de sécurité et des mesures sont en train d'être prises aujourd'hui pour que le gouvernement centrafricain, de concert avec la MINUSCA, adresse cette question de sécurité, mais aussi de criminalité, de grand banditisme qui se passe et qui attaque aussi les ressources naturelles du pays.
J'ai un profond chagrin sur le cœur à cause de la souffrance de mon pays. Je veux crier ma douleur au Seigneur. Aïe, aïe. Tu n'as connu que misère et douleur.
Peut-on envisager une accalmie durable dans ces pays, même si le programme prêt d'aider a débuté dans certains localités et que beaucoup de groupes armés restent toujours armés?
Non. Honnêtement, on ne peut pas envisager une accalmie durable, une paix durable, une stabilité sans désarmement. La même raison qu'on ne peut pas non plus envisager une paix sans réforme du secteur de sécurité. Parce que cela va ensemble. Une claire stratégie de réforme du secteur de sécurité doit fonder le DDR, puisqu'il faut qu'on sache un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes qui seront démobilisés et qui seront désarmés. Et donc, c'est vrai que la réforme du secteur de sécurité pourra prendre en compte certains, mais pas tous. Et donc, il faut aussi accentuer l'appel vers d'autres sources, vers d'autres domaines qui vont absorber justement ces jeunes-là qui sont à la recherche d'emploi. Et dans la réunion que nous avons eue ici au mois de mars, souvenez-vous, j'ai beaucoup insister sur le rôle que pouvait jouer le secteur privé dans le soutien au DDR, c'est-à-dire à la réinsertion des jeunes, à la resocialisation de ces jeunes-là, mais aussi à la protection et à la sécurité. Et donc, il est important que toutes les composantes, tout le monde en République centrafricaine réfléchisse et de manière consensuelle pense à ces questions de désarmement, de sécurité et s'engage pour un désarmement qui tienne compte du consensus, mais aussi de l'action de toute la population. Vous savez, il y a des endroits où toute la population est armée. Quand j'avais rencontré le président, il m'avait dit très justement, comment voulez-vous que la femme centrafricaine puisse aller au champ quand à côté il y a quelqu'un qui a une arme et que la personne utilise cette arme-là pour se protéger ou se défendre parce qu'elle a peur. Donc il y a justement ce recours systématique aux armes que l'on sent maintenant, que l'on sent en Centrafrique, que l'on sent depuis longtemps, que l'on sent maintenant, qui est absolument regrettable et condamnable. Mais ne pourra disparaître que si ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité le font, donc sont équipés, armés et identifiés pour le faire. Et ceux qui ne doivent pas avoir les armes, ne les ont pas, soient désarmés.
Devant le Conseil des droits de l'homme, Mme Keita Bokoum, vous avez aussi rappelé que durant votre visite en Centrafrique, vous avez ressenti des frustrations de jeunes et de communautés qui se sentent marginalisées, exclues. Qui sont ces jeunes et quel type de changement attendent-ils des nouvelles autorités centrafricaines?
Ces jeunes attendent la mise en œuvre d'une politique de plus d'inclusion. Ça veut dire qu'ils veulent participer au développement du pays, mais aussi au partage des ressources, à la prise de décision politique. Et cela, je l'ai senti chez les femmes, et chez les jeunes, de tout communautés confondues. Et notamment dans les régions où les musulmans sont majoritaires, les chrétiens ont des problèmes. Et dans les régions où les musulmans sont minoritaires, ils ont des problèmes. Donc ce sont des jeunes des deux communautés. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'au mois de mars, je suis allée au PKSFENK et là j'ai vu les deux communautés confondues m'exprimer les requêtes du quartier, et non pas des communautés musulmanes ou chrétiennes, mais des requêtes afférentes au quartier du PK5. Cette fois-ci, je ne dis pas division, mais le clivage était apparent. Et les jeunes musulmans que j'ai rencontrés, notamment en Ndélé et au PK5, m'ont indiqué justement les difficultés qu'ils avaient à aller à l'école, le sentiment qu'ils ont encore de ne pas pouvoir retourner à Bangui pour étudier, et donc ce sentiment qu'il y a de ne pas participer finalement et ne pas bénéficier des retombées. Donc ils attendent beaucoup de ce gouvernement. J'ai rencontré la ministre de la Réconciliation qui m'a laissé entendre qu'il y a une commission qui aujourd'hui va être mise en place et va discuter des questions des comités locaux de paix et de réconciliation, la question des déplacés, la question des réfugiés qui reviennent et déplacés qui rentrent chez eux et dont les biens ne sont pas garantis. Toutes ces questions sont sur la table. Et les indications qui m'ont été données par un très fort leadership, d'ailleurs exprimé par Madame le ministre, m'indiquent que la question des déplacés, le retour des déplacés, la réintégration des réfugiés seront des questions très importantes qui seront abordées, y compris la question de l'état civil.
L'autre aspect soulevé aussi lors de l'examen de votre rapport à Genève est relatif à la question de la justice transitionnelle. Sur ce chantier, que doit-on faire pour un renouveau des systèmes judiciaires en termes de réformes institutionnelles et surtout du suivi des poursuites judiciaires?
Bon, la justice transitionnelle, c'est un ensemble de mécanismes judiciaires et non judiciaires qui permettent d'adresser l'impunité, qui permettent d'adresser la réparation. Et cette réparation, elle n'est pas seulement individuelle, elle est aussi collective, voire même au niveau de la nation. Et en ce qui concerne la Centrafrique, le forum de Bangui a déjà identifié les domaines dans lesquels cette justice doit s'orienter et a déjà identifié une cour pénale spéciale qui a été créée par une loi de 2015 et qui va être maintenant installée puisque déjà le budget pour 18 mois a été voté et donc on peut déjà penser que les juges nationaux et internationaux seront désignés assez tôt. C'est là où il y avait des lenteurs. Je pense qu'il est important aussi que le gouvernement désigne une commission au niveau du gouvernement de la Centrafrique pour pouvoir justement discuter de concert avec la communauté internationale. Le ministre de la Justice que j'ai rencontré m'a dit que maintenant il n'y avait plus d'obstacle à ce que le procureur soit nommé et que la Cour commence déjà ses premiers travaux. Donc là on a connu quand même pendant ces dernières semaines une accélération de la mise en œuvre des mesures permettant l'installation de cette Cour pénale. On m'avait aussi annoncé une action assez complémentaire de la CPI là-bas et elle permettra justement d'adresser les questions qui ne peuvent pas être adressées étant donné les capacités, les compétences des tribunaux locaux et nationaux qui sont en train d'être être réhabilité. Je dois dire qu'on attendait la tenue des secondes assises criminelles depuis le début du mois de juin. Je n'ai pas eu vent qu'elles se sont tenues ou qu'elles vont se tenir bientôt. Donc là, je crois que nous attendons vraiment un signal fort pour la tenue de ces assises. Ça fait partie justement de la restauration des mécanismes de justice transitionnelle. Vous savez, il y a cette cour spéciale, il y a la restauration de la chaîne pénale nationale avec le fonctionnement des tribunaux. Il y a le déploiement de juges, il y a aussi le renforcement des capacités des avocats qui permettent de défendre les victimes. Il y a aussi la protection des victimes et des témoins. Et il y a cette commission vérité, justice, réparation, qui va être une commission forte, d'après ce que j'ai appris, et qui va identifier les cas, après avoir entendu les victimes, les témoins et la population, qui va identifier les cas qui seront transmis aux tribunaux et les cas qui pourront être réglés par des institutions traditionnelles et qui donc va donner donc un rôle important aussi aux autorités traditionnelles, ce qui est important, parce que la vérité est déjà une partie de la réparation. Sans vérité, on ne peut pas aller au-delà. Les victimes sont actuellement frustrées, elles ont l'impression qu'elles sont tenues en dehors parce que justement la vérité n'est pas reconnue officiellement. Et c'est donc important cette commission vérité, c'est une préoccupation des autorités, elles me l'ont signifié à maintes reprises et le gouvernement m'a aussi informé qu'ils allaient avoir un séminaire très bientôt sur cette question de justice transitionnelle. C'est dire que ces mécanismes est le mécanisme qui aujourd'hui paraît celui qui va permettre la lutte contre l'impunité, la réparation, la non-répétition et donc aux Centrafricains de tourner la page douloureuse du conflit qu'ils ont subi depuis des dizaines d'années.
Reviens sous l'arbre, pas l'arbre, sans armes. Le seul besoin qu'il faut, c'est l'unité qui donne à tous ce bien qu'on appelle la paix.
Tonga.
Si on doit prendre une recommandation aussi bien pour la MINUSCA qu'au président Faustin Archange Touadéra pour mettre fin à la violence, surtout redresser un pays miné par 3 années de conflit, quelle serait l'urgence des urgences?
Pour moi, l'urgence des urgences, c'est la protection des civils. C'est indispensable, hein, au vu de ce qui se passe. C'est prendre des mesures ensemble, MINUSCA, gouvernement, pour accentuer la protection des civils et rassurer la population qu'elle peut vaquer en toute sécurité à l'intérieur et de Bangui et à l'extérieur de Bangui, ce qui n'est pas encore le cas. Ça demande des mesures de discussion avec les groupes armés, mais surtout de réduire l'effet négatif de ces groupes armés. Il est important que ce désarmement soit un désarmement consensuel. Il est important que les gens voient leur intérêt aujourd'hui à désarmer, à comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à porter des armes alors que le pays a eu des élections et évolue vers la stabilité et la paix. Il faut une solution pacifique et discutée. Et là, j'appelle la communauté internationale, en particulier les pays voisins, à s'engager aussi peut-être davantage dans les discussions justement sur le désarmement et dans une médiation pour amener tous ceux qui aujourd'hui croient qu'ils peuvent porter les armes et alors qu'ils les portent de manière illégale à ne pas le faire et à aider les Centrafricains aussi à plus de stabilité et plus de paix. La Centrafrique, c'est le centre de l'Afrique, donc le centre de la sous-région. Et une stabilité et une paix durable en Centrafrique va conditionner, je crois, la stabilité et la paix durable à l'extérieur. Il n'y a qu'à voir le nombre de réfugiés qui sont allés dans ces différents pays et qui, aujourd'hui, pèsent sur ces pays. Donc la paix permettra à ces réfugiés de revenir et donc la paix en Centrafrique a un effet sur la paix et la stabilité dans les pays voisins. Donc vraiment je les invite à intervenir plus et je crois que tout le monde en mettant la main, et non seulement les pays de la sous-région mais aussi d'autres pays par la coopération sud-sud, peuvent aider la Centrafrique en leur fournissant des ressources, des capacités aussi. Il n'y a pas que les bailleurs de fonds qui peuvent aider, il y a ceux qui peuvent aussi apporter des ressources humaines, une technicité à la Centrafrique pour l'aider à se relever dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Pourquoi pas? Nous avons eu des pays qui se sont relevés grâce au soutien de pays frères qui n'avaient pas forcément de l'argent mais qui avaient des capacités techniques à apporter. Donc je crois que la fraternité africaine aussi doit pouvoir jouer dans une coopération sud-sud pour aider la Centrafrique à se relever de ses cendres.
Cessez le feu, jetez les armes. Il y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. Oh.
Et c'est avec Marie-Thérèse Keita-Boukoum, experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.